question, c'est-à-dire sexuellement? Réponse, c'est-à-dire sexuellement. Finalement, le mariage tel que vous l'avez construit est une façon d'affirmer « Cette relation est particulière. Je tiens à elle par-dessus toutes les autres. » Question, qu'y a-t-il de mal à cela? Réponse, rien. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Le bien et le mal n'existent pas. L'important c'est, selon vous, sert-il ou non? Cela vous permet-il de vous recréer dans la prochaine image la plus grandiose de qui vous êtes vraiment? Si ce qui vous êtes vraiment est un être qui dit « cette relation est uniquement celle-ci et plus particulièrement qu'aucune autre », alors votre construction du mariage vous l'accorde parfaitement. Mais vous trouverez peut-être intéressant de remarquer que presque aucun maître spirituel reconnu n'est marié. Question. Parce que les maîtres sont chastes, qu'ils n'ont aucune activité sexuelle. Réponse. Non. Parce qu'ils ne peuvent sincèrement affirmer la même chose que votre présente construction du mariage, à savoir qu'une personne soit plus spéciale pour eux qu'une autre. Ce n'est pas le genre d'affirmation que fait un maître, et ce n'est pas le genre d'affirmation que ferait Dieu. En fait, vos vœux de mariage, tels que vous les construisez présentement, vous poussent à faire une affirmation très indivine. Le comble de l'ironie, c'est que cette promesse, qui est pour vous la plus sacrée, Dieu ne la ferait jamais. Mais afin de justifier vos craintes humaines, vous avez imaginé un Dieu qui agit comme vous. Par conséquent, vous parlez de la promesse de Dieu à son peuple élu et d'alliance entre Dieu et ceux qu'il aime d'une manière spéciale. Comme vous ne pouvez supporter de penser que Dieu n'aime personne d'une manière plus spéciale que d'autres, vous créez des fictions à propos d'un Dieu qui n'aime que certaines personnes pour certaines raisons. Et vous appelez ces fictions des religions. Je les appelle des blasphèmes. Car toute pensée que Dieu aime une personne plus qu'une autre est fausse. Et tout rituel qui vous demande de faire la même affirmation n'est pas un sacrement, mais un sacrilège. Question. Oh mon Dieu, arrête, arrête. Tu démolis tout ce que j'ai jamais pensé du mariage. C'est impossible que Dieu écrive cela. Dieu ne dirait jamais de telles choses sur la religion et le mariage. Réponse. Ce dont nous parlons ici, c'est de la religion et du mariage tels que vous les avez construits. Mes paroles te paraissent dures? Je te dis ceci. Vous avez abâtardi la parole de Dieu afin de justifier vos peurs ainsi que le traitement malsain que vous vous infligez les uns les autres. Vous ferez dire à Dieu tout ce que vous voulez afin de continuer à vous limiter les uns les autres, de vous blesser les uns les autres et de vous tuer les uns les autres en mon nom. Ouais, depuis des siècles, vous avez invoqué mon nom, brandi mon drapeau et porté des croix sur vos champs de bataille. Tout cela pour prouver que j'aime un peuple plus qu'un autre et que je vous demanderai de tuer pour le prouver. Mais je vous dis ceci, mon amour est illimité et inconditionnel. C'est la seule chose que vous ne puissiez entendre, l'unique vérité que vous ne puissiez accepter, car le fait qu'elle englobe tout détruit non seulement l'institution du mariage, telle que vous l'avez construite, mais aussi chacune de vos religions et de vos institutions gouvernementales. Car vous avez créé une culture fondée sur l'exclusion et l'avez appuyée sur le mythe culturel d'un Dieu qui exclut. Mais la culture de Dieu est fondée sur l'inclusion. Dans l'amour de Dieu, tout le monde est inclus. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est invité. Et cette vérité, est-ce que vous appelez un blasphème? Et vous devez l'appeler ainsi. Car si c'est vrai, tout ce que vous avez créé dans votre vie est faux. Toutes les conventions et les constructions humaines sont erronées dans la mesure où elles ne sont pas illimitées, éternelles et libres. Question. Comment une chose peut-elle être erronée s'il n'y a ni bien ni mal? Réponse. Une chose n'est erronée que dans la mesure où elle ne fonctionne pas pour remplir son rôle. Si une porte ne s'ouvre ni ne se ferme, on ne dira pas que cette porte est mauvaise. On dira tout simplement que son installation ou son fonctionnement sont défectueux parce qu'elle ne remplit pas son rôle. Tout ce que vous construisez dans votre vie, dans votre société humaine, et qui ne vous permet pas d'atteindre votre but, celui de devenir humain, est erroné. C'est une construction erronée. Question. Et mon but, en devenant humain, est quoi encore? Réponse. De décider et de déclarer, de créer et d'exprimer, de faire l'expérience et de réaliser qui tu es vraiment. À chaque moment de te recréer à nouveau, selon la version la plus grandiose de ta vision la plus grande de qui tu es vraiment. Ceci est ton but en devenant humain et le but de toute vie. Question. Alors où cela nous a-t-il mené? Nous avons détruit la religion, dissous le mariage et dénoncé les gouvernements. Où en sommes-nous? Réponse. Tout d'abord, nous n'avons rien détruit, dissous ou dénoncé. Si une construction que vous avez créée ne fonctionne pas et ne produit pas ce que vous vouliez. Le fait de mettre en évidence le problème n'est ni détruire, ni dissoudre, ni dénoncer la construction. Essaie de te rappeler la différence entre le jugement et l'observation. Question. Eh bien, je ne vais pas me mettre à discuter avec toi ici, mais une grande partie de ce qui vient d'être dit m'a semblé, à moi, renfermer des jugements. Réponse. Nous sommes contraints, ici, par les affreuses limites des mots. Il y en a vraiment peu, et nous devons sans cesse utiliser les mêmes, même s'ils ne portent pas toujours la même signification ni le même genre de pensée. Tu dis que « tu aimes » entre guillemets les banana splits, mais sûrement pas de la même façon que tu aimes ton amoureuse. Alors tu vois, vous avez très peu de mots, vraiment, pour décrire vos sentiments. En communiquant avec toi ainsi, avec des mots, je me suis permis d'éprouver ces limites. Et je te concède que, parce qu'une part de ce langage a également été utilisée par toi pour porter des jugements, il serait facile de conclure que je porte des jugements quand je les utilise. Permets-moi de t'assurer ici que je n'en fais rien. Tout au long de ce dialogue, j'ai tout simplement tenté de te dire comment arriver là où tu dis vouloir aller et te décrire le plus efficacement possible ce qui barre ta route, ce qui t'empêche d'y aller. Alors, en ce qui concerne la religion, tu dis vouloir chercher à vraiment connaître et aimer Dieu? Je te fais tout simplement observer que vos religions ne t'y mènent pas. Vos religions ont érigé Dieu en grand mystère et vous ont amené à le craindre plutôt qu'à l'aimer. De même, la religion a fait peu pour que vous changiez vos comportements. Vous vous entretuez encore, vous vous condamnez, vous vous donnez tort. En réalité, vos religions vous ont encouragé dans ce sens. Je te fais donc tout simplement remarquer que tu dis vouloir que la religion t'amène à tel endroit, mais qu'elle te mène plutôt à un tel autre. Tu désires que le mariage te conduise au pays de la béatitude éternelle, ou du moins à un niveau raisonnable de paix, de sécurité, de bonheur. Comme pour la religion, votre intention appelée mariage y arrive au début, lorsque vous êtes encore aux premières expériences. Mais plus vous entretenez cette expérience, plus elle vous mène là où vous dites ne pas vouloir aller. Presque la moitié des gens mariés dissolvent leur mariage au moyen du divorce. Et parmi ceux qui demeurent mariés, beaucoup sont désespérément malheureux. Vos, entre guillemets, unions bénies vous entraînent vers l'amertume, la colère et le regret. Certaines, et pas seulement un petit nombre restreint, vous mènent à un espace de tragédie absolue. Vous dites vouloir que vos gouvernements assurent la paix, la liberté et la tranquillité du pays, et j'observe que, tels que vous les avez conçus, ils ne font rien de cela. Il vous mène plutôt à la guerre, à un manque de liberté croissant, ainsi qu'à la violence et au soulèvement à l'intérieur du pays. Vous n'avez pu résoudre les problèmes fondamentaux, comme nourrir les gens et les garder en santé et en vie, et vous avez encore moins relevé le défi de leur accorder des chances égales. Des centaines d'entre vous meurent de faim chaque jour sur la planète, alors que des milliers d'entre vous jettent quotidiennement assez de nourriture pour ravitailler des pays entiers. Vous ne pouvez vous acquitter de la simple tâche de donner les restes des nantis aux pauvres et encore moins déterminer si vous voulez partager vos ressources plus équitablement. Alors, ce ne sont pas des jugements, ce sont des réalités observables dans votre société. Question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi avons-nous fait si peu de progrès dans la conduite de nos affaires ces dernières années ? Réponse. Des années ? Plutôt des siècles ? Question. D'accord, des siècles. Réponse. C'est en raison du premier mythe culturel humain et de tous les autres mythes qui s'ensuivent nécessairement. À moins qu'ils ne changent, rien ne changera, car vos mythes culturels informent votre éthique, et votre éthique crée vos comportements. Mais un problème surgit. Votre mythe culturel est en désaccord avec votre instinct fondamental. Question. Qu'entends-tu par là ? Réponse. Selon le premier mythe culturel, les êtres humains sont intrinsèquement mauvais. C'est le mythe du péché originel. D'après ce mythe, non seulement votre nature fondamentale est mauvaise, mais vous-même êtes né ainsi. Le second mythe culturel, nécessairement engendré par le premier, est le suivant. Ce sont les plus forts, entre guillemets, qui survivent. Certains d'entre vous sont forts et d'autres faibles. Et pour survivre, vous devez faire partie des forts. Vous faites tout votre possible pour aider votre prochain, mais lorsque votre propre survie est en jeu, vous vous occupez d'abord de vous-même. Vous laissez même mourir les autres. En fait, vous allez plus loin que cela. Si vous êtes confronté à votre survie et à celle des vôtres, vous tuerez les autres, présumément les faibles, ce qui vous classera donc parmi les plus forts. Pour certains d'entre vous, il s'agit là de leur instinct fondamental. Cela s'appelle l'instinct de survie, et c'est ce mythe culturel qui a formé une grande part de votre éthique sociale et créé nombre de vos comportements de groupe. Mais votre instinct fondamental n'est pas la survie, mais bien plutôt la justice, l'unité et l'amour. C'est l'instinct fondamental de tous les êtres conscients, partout. C'est votre mémoire cellulaire. C'est votre nature intrinsèque. Ainsi explose votre premier mythe culturel. Vous n'êtes pas fondamentalement mauvais. Vous n'êtes pas né dans le péché originel. Si votre instinct fondamental était la survie, et si votre nature fondamentale était le mal, vous ne vous déplaceriez jamais instinctivement pour sauver un enfant de la chute, un homme de la noyade, ni personne de quoi que ce soit. Et pourtant, lorsque vous agissez à partir de vos instincts fondamentaux, que vous exposez votre nature fondamentale et que vous ne pensez pas à ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement de cette façon que vous vous comportez, même à vos risques. Ainsi, votre instinct fondamental ne peut être la survie, et votre nature fondamentale n'est clairement pas le mal. Votre instinct et votre nature doivent refléter l'essence de qui vous êtes, la justice, l'unité et l'amour. En examinant les implications sociales de cela, il est important de comprendre la différence entre justice et égalité. La recherche de l'égalité, ou du fait d'être égaux, n'est pas un instinct fondamental chez tous les êtres conscients. En effet, c'est exactement le contraire. L'instinct fondamental de tout ce qui vit est d'exprimer l'unicité et non la similitude. Créer une société dans laquelle deux êtres sont véritablement égaux, voilà une chose non seulement impossible, mais indésirable. Les mécanismes sociaux destinés à produire la véritable égalité, autrement dit la similitude économique, politique et sociale, vont à l'encontre, et non dans le sens de l'idée la plus grandiose et du dessein le plus élevé, que chaque être aura l'occasion de produire le résultat de son désir le plus grand et, ainsi, de se recréer véritablement à nouveau. Ce qu'il faut pour cela, ce sont des chances égales, et non l'égalité de fait. Cela s'appelle la justice. L'égalité de fait, produite par des forces et des lois extérieures, éliminerait la justice, mais ne la produirait pas. Elle empêcherait une véritable recréation de soi, qui est, partout, le but le plus élevé des êtres illuminés. Et qu'est-ce qui créerait la liberté de chance? Des systèmes qui permettraient à la société de répondre aux besoins de survie de chaque individu, donnant à tous les êtres l'occasion de poursuivre leur développement personnel et leur création de soi plutôt que leur survie. Autrement dit, des systèmes qui imitent le système véritable appelé la vie, dans lequel la survie est garantie. Dès lors, parce que la survie n'est pas un problème dans les sociétés éclairées, ces sociétés ne laisseraient jamais souffrir l'un de leurs membres s'il y avait suffisamment de tout pour tout le monde. Dans ces sociétés, l'intérêt personnel et l'intérêt mutuel restent identiques. Aucune société créée autour d'un mythe du entre guillemets, « mal intrinsèque » ou de la survie du plus fort ne songerait à atteindre un tel degré d'intelligence. Question. Oui, je vois. Et cette question du mythe culturel en est une que je veux explorer plus tard en détail, en même temps que les comportements et l'éthique des civilisations plus avancées. Mais j'aimerais revenir une dernière fois aux questions déjà entamées. L'un des défis que présente le fait de te parler, c'est que tes réponses nous mènent dans des directions si intéressantes que j'oublie parfois où j'ai commencé. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Nous parlions du mariage, de l'amour et de ses exigences. Réponse : l'amour n'a pas d'exigence. Voilà pourquoi c'est de l'amour. Si votre amour l'un pour l'autre comporte des exigences, alors ce n'est pas du tout de l'amour, mais une version contrefaite. C'est ce que j'ai tenté de te dire ici. C'est ce que j'ai exprimé d'une dizaine de façons différentes sur toutes les questions que tu as posées. Dans le contexte du mariage, par exemple, existe un échange de vœux que l'amour n'exige pas. Mais vous exigez parce que vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Ainsi, vous vous promettez mutuellement ce que l'amour ne demanderait jamais. Question. Alors, tu es vraiment contre le mariage ? Réponse. Je ne suis contre rien. Je décris tout simplement ce que je vois. Mais vous pouvez changer ce que je vois. Vous pouvez redessiner votre construction sociale appelée mariage de telle sorte qu'elle ne demande pas ce que l'amour ne réclamerait jamais, mais plutôt déclare ce que seul l'amour pourrait déclarer. Question. Autrement dit, modifier les vœux du mariage. Réponse. C'est plus que cela. C'est changer les attentes sur lesquelles sont fondés les vœux. Et elles seront difficiles à rectifier car c'est votre héritage culturel. À leur tour, elles proviennent de vos mythes culturels. Question. Nous voilà revenus à cette rengaine sur les mythes culturels. Qu'est-ce que tu as contre ? Réponse. J'espère vous indiquer la bonne direction. je vois où vous dites vouloir aller avec votre société et je souhaite trouver des paroles et des termes humains capables de vous y diriger. Puis-je te donner un exemple ? Question, s'il te plaît. Réponse. L'un de vos mythes culturels sur l'amour se résume à ceci. Il consiste à donner plutôt qu'à recevoir. C'est même devenu un impératif culturel. Et pourtant, cela vous rend fou et vous cause plus de tort que vous ne l'imaginez. Cela entraîne et retient des gens dans de mauvais mariages. Cela rend dysfonctionnelles des relations de toutes sortes, mais personne, ni vos parents vers qui vous vous tournez afin qu'ils vous guident, ni votre clergé vers qui vous vous tournez pour qu'il vous inspire, ni vos psychologues et psychiatres vers qui vous vous tournez pour qu'ils vous éclairent, ni même vos écrivains et vos artistes vers qui vous vous tournez pour qu'ils assument un leadership intellectuel, n'osera mettre en cause le mythe culturel dominant. Ainsi, on écrit des chansons, on raconte des récits, on tourne des films, on donne des conseils, on offre des prières et on élève des enfants d'une façon qui perpétue le mythe. Alors, il ne vous reste qu'à vous y conformer, tous. Et vous ne voulez pas. Mais ce n'est pas vous le problème, c'est le mythe.